بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يا أيها الإخوة، le thème que nous avons choisi pour cette première conférence est celui du mariage réussi. Allah subhanahu wa ta'ala sait plus que nous que cela est un point très important dans notre religion. Din Islam. Les conférenciers ont décidé de subdiviser la conférence en trois parties. Akhwana fillah Mustafa, qu'on ne présente plus, nous parlera des préliminaires au mariage et reviendra entre autres sur le choix de l'époux, de l'épouse, etc. Al-Mahboub, Oussaduna, Al-Aqida wa Fil-Fiqh, en première année, Daoud, nous parlera de la vie conjugale et des droits et devoirs de chacun des époux et épouses. Al-Sheikhuna Al-Fadil, le dernier mois de mois, nous parlera des conseils et remèdes que chaque frère et sœur devront appliquer, Inch'Allah, pour la sauvegarde de leurs enfants et de notre. Dans un quatrième point, nous ouvrons l'ajal pour les questions, Inch'Allah, qui seront écrites. Donc on vous demande d'écrire sur un bout de papier les questions au Padel et au Tafawad. Donc il y a une sœur qui est prévue qui va ramasser les différentes questions pour qu'on puisse répondre au maximum de questions, Inch'Allah. On a trop connu l'ajal de Akhwana Fillah Mustafa qui va donc nous parler des préliminaires au mariage.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الغيث ومرسل السحاب، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب ومن اتبع هداهم وسلك طريقتهم وإلى ربه أناب. أحمده تعالى وأشكره وبنعمه أذكره على ما تفضل به علينا من نعمه السابغات وما هدانا إليه في حججه الواضحات. وبعد، mes chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme l'a très bien souligné notre frère Hicham, le sujet qui a été choisi, le thème qui a été choisi pour cette première conférence, le mariage réussi, et je parlerai donc de tout ce qui concerne les préliminaires. Et chacun d'entre nous sait que l'homme en général, et le musulman en particulier, connaît trois grands événements qui le marquent et qui marquent son entourage. Le premier de ces événements est la naissance, al-wilada. La naissance est le point de départ pour une nouvelle vie. Car l'individu devra subir des épreuves dans cette vie d'ici-bas. L'individu connaîtra des réussites et des échecs, alors il doit se préparer. L'autre événement important parmi ces trois événements, le mariage, le zawaj, le nikah. Pourquoi est-il si important? Car le croyant, le musulman, non seulement veut accomplir ses devoirs que l'islam, que la loi de l'islam nous a justement enseigné, mais en plus de cela, il veut surtout et avant tout assurer une descendance pieuse, une progéniture pieuse, bi'idhnillah. Et troisième événement important, bien que douloureux, la mort, non. Car la mort constitue la conclusion de notre vie d'ici-bas et nous orientons directement vers Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre des comptes. Nous parlerons bien sûr du mariage qui est deuxième événement très important, et il est important de souligner que le mariage en lui-même est une nécessité naturel, inné, daroura fitriya. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ya ayyuhannas, ou les gens, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا Et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous entre connaissiez. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Le plus méritant d'entre vous auprès d'Allah SWT est celui qui est le plus pur. التَّقْوَى, la crainte. Et ce verset, bien sûr, qui est très important, nous souligne deux points qui sont essentiels. Le premier point, c'est lorsque Allah SWT nous dit لِتَعَارَفُوا afin que vous en connaissiez. Deux explications, deux tafsirs à ce niveau. Certains, nos tafsirs, nous parlent de ta'aruf, c'est-à-dire s'entre-connaître, tout simplement. Et d'autres disent, dans une autre explication ou un autre tafsir, nous disent qu'il s'agit ici du fait que les gens puissent se connaître les uns les autres par leur descendance. J'appartiens à telle famille, tu appartiens à telle famille, etc. Et le but justement du mariage, c'est de préserver justement les liens de sang, préserver cette descendance, comme nous allons voir, Inch'Allah. Et l'imam Shoukhan, bien sûr, a résumé cela. Donc il a regroupé les deux points et on en fait un seul, donc ces deux explications. Il en a fait donc une seule. Dans un autre verset, également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَخَلَقْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Nous avons créé de toutes choses deux époux. Donc un mâle et une femelle. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Peut-être, ce sera pour vous un rappel, vous vous rappellerez de ceci. Et nous avons encore un autre verset qui est encore plus explicite, qui nous parle justement de cet ancrage inné, qui est justement le mariage, qui est ce besoin d'avoir un conjoint, une conjointe, ou faire ce parcours. C'est le verset dans Surat al-Rum, où une ayat dit أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته parmi ces signes أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا parmi ces signes il a créé pour vous de vous donc de vous cet ancrage qu'il est qu'on retrouve ici dans ce verset أزواجا لتسكنوا إليها afin que vous trouviez une demeure auprès d'elle وجعل بينكم مودة ورحمة et là c'est entre vous il a inculqué entre vous Al-Mawadda, cet amour, cette amitié, wa rahma, cette miséricorde, inna fi dhalika al-ayat, li qawmin yatafakkaroun. Il y a des signes pour les gens qui réfléchissent justement dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci donc était la nécessité innée. Donc, pour préserver donc, comme je l'ai indiqué, l'espèce humaine, d'une façon générale. Mais le mariage constitue aussi une nécessité prescrite. Par la loi de l'islam, daroura shar'iyya. En effet, si nous nous rappelons que l'une des finalités de la loi de l'islam, par lesquelles justement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et même les prophètes avant ont été envoyés pour la même chose, c'est de préserver la descendance. Hifd al-nasl. Et c'est pour cela que nous retrouvons une petite indication à ce sujet, l'importance du fait de préserver cette descendance afin que le sang, les liens du sang ne se mélangent pas. Afin qu'on ne confonde pas qui s'affilie à qui est le père de qui est le fils ou la fille de qui. Donc, face à cela, nous retrouvons le verset dans lequel Allah s'est dit, Ud'uhum li aba'ihim huwa aqrabu 'inda Allah. Affilie-les à leur père. C'est plus juste auprès d'Allah s'est dit. Fa'in lam ta'lamu aba'ahum, fa'ikhwanukum fid-din, ou mawalikum. Et si vous ne connaissez pas leurs parents, fa'ikhwanukum fid-din. Ce sont donc vos frères dans la religion, homologués qui sont vos alliés, donc après que vous les ayez affranchis, ils sont liés à vous. Donc on voit ici que la préservation de la descendance, chef de neuf, est l'une des finalités de la loi d'Islam. Et c'est pour cela que pour justement garantir cette préservation de la descendance, la loi d'Islam a justement légiféré, ou Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré justement le mariage, pour concrétiser et assurer ses descendants comme Allah s'en fait le désir. Nous avons également des hadiths dans lesquels le prophète s'en sallam, justement dans cet axe de préserver cette descendance, d'assurer la pureté et la netteté de la société, le prophète a fait dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, plutôt rapporté par Bukhari et Muslim d'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète a fait lance un appel aux jeunes, al-shabab, en leur disant, ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba' falyatazawwaj. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يا معشر الشباب le prophète interpelle صلى الله عليه وسلم interpelle les jeunes qu'est-ce qu'il dit يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج celui qui peut assurer qui a la capacité physique financière etc de se marier qu'il le fasse pourquoi فإنه أغض للبصر il permet de préserver le regard وأحسن للفرج il permet justement il permet également de nous préserver de tomber dans certaines désobéissances des grands péchés comme l'adultère le zina ou même la méchanceté celui qui ne peut pas parce qu'il n'a pas les moyens ou alors il n'est pas encore apte pour cela ça عليه بالصوم et bien il doit faire le jeûne فإنه له وجاء الوجاء c'est la protection الحماية الحسن donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous apprend ici et incite Il a bien précisé, celui qui peut assurer, qui a la capacité. Et ça, on va expliquer, Inch'Allah, les différents degrés concernant ceux qui désirent se marier. Ils s'inscrivent tous dans ce qu'on appelle l'ahkam al-taklifiyya, donc les règles juridiques concernant le wajib, le haram, etc. Dans un autre hadith, rapporté par Ahmed, d'après Anas, radiallahu anhu arda, le prophète sallam dit, تزوجوا الولود, الودود. فإني مكافر لكم الأنبياء يوم القيامة. Et dans une autre rivière, une autre version, فإني مكافر لكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود. الولود, c'est-à-dire la femme qui est fertile, qui peut justement garantir cette progéniture et cette descendance. الودود, cette femme douce, avec laquelle tu peux t'entendre et construire ton avenir, construire ton couple et ton foyer. فَإِنِّي مُكَافِرُ لِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Car justement le prophète veut égaler les autres prophètes يَوْمَ الْقِيَامَةِ Il veut que sa communauté soit la plus nombreuse. Et c'est pour cela qu'on retrouve cela dans l'autre version de ce même hadith. فَإِنِّي مُكَافِرُ لِكُمْ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Je tiens à égaler les autres nations, les autres communautés qui m'ont précédé le jour du jugement dernier. Concernant encore l'importance du mariage et qui fait partie de la sunna de notre prophète, de la voix des prophètes également, nous avons un autre hadith également, Anas, rapporté par Bukhari Muslim et d'autres, dans lequel trois personnes se sont présentées, sont venues voir les épouses du prophète. Ils sont venus pourquoi ? Ils sont venus se renseigner comment le prophète sallam vit sa vie de couple, sa vie de ménage, comment gère-t-il son foyer. Et ils sont venus interroger donc les épouses du prophète sallam et après avoir reçu la réponse, comment le prophète sallam vivait son quotidien avec ses épouses, ils étaient un peu, entre guillemets, je ne dirais pas déçus, mais ils se posaient d'énormes questions. Ils disent, mais comment faire? Alors que le prophète sallam قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر alors que le prophète sallam ses péchés anciens et futurs sont tous pardonnés et c'est là qu'il a entre dit par contre moi il dit usalli al-layl abada wa la anam il dit moi je prie toute la nuit je ne dors pas un autre a dit ana asum al-dahr wa la uftir un autre a dit ana asum al-dahr wa la uftir donc je fais le jeûne tout le temps et je ne mange pas et le troisième a dit وأنا لا أتزوج النساء et moi je ne me marie pas et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ce qu'ils ont dit et après qu'il ait fait louange à Allah subhanahu wa ta'ala alhamd il leur a dit أما إني والله والله أخشاكم لله وأتقاكم je suis Allah auprès de Dieu bien plus craintif que vous لكنني أنا أصلي وأنام il dit je prie et je dors وأصوم وأفطر. Je fais le jeûne et également je mange. وأتزوج النساء. Et j'épouse donc les femmes. فمن رغب عن سنتي فليس مني. Celui
celui qui tourne le dos à ma sunnah n'est pas des meilleurs. Donc ici le prophète sallam rappelle justement que ces gens-là, ces trois personnes se sont énormément trompées à son sujet en croyant que par là ils étaient meilleurs que lui parce qu'ils ne se marient pas. Et là le prophète sallam a bien précisé فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Donc celui qui tourne le dos à ma sunnah, qui ne prend pas exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il ne fait pas partie des siens. Donc ça c'est l'importance et cette nécessité prescrite par la loi. Il est important de une sorte de pause historique, si l'expression le permet, de savoir qu'avant que le mariage, al-zawaj, soit légiféré, les Arabes dans la Jahiliya avaient d'autres types de mariages ou de rapports conjugaux. Et on retrouve ça justement dans un hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha, chez Al-Bukhari et Abu Daoud, dans lequel elle dit, elle parle du mariage ou des rapports conjugaux avant l'islam. Elle dit, ils sont de quatre sortes. Le premier, nikah innas al-yawm. Le mariage que les gens font aujourd'hui. Donc l'un va demander la fille à l'autre, et si elle est d'accord, eh bien donc ils sont après, inshallah, unis. La deuxième catégorie, donc ce type de mariage que nous connaissons maintenant, existait déjà dans la Jahiliya. Bien que moindre. L'autre type de mariage, ce qu'on appelle nikah al-istibda. Nikah al-istibda, de quoi s'agit-il? L'homme qui a son épouse, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque son épouse a passé cette période de ses règles mensuelles, il l'envoie chez quelqu'un de noble, parmi les Arabes. Il dit, va chez elle, va chez lui plutôt. Et après revient. Donc il la laisse aller chez lui, et donc avoir des relations avec lui, et après il ne la touche plus jusqu'à ce qu'elle accouche, jusqu'à ce qu'elle soit enceinte et qu'elle accouche. Et lorsqu'elle est pure, donc il se remet en relation avec elle. Et pourquoi c'était cela? Pour eux, c'était un honneur que son épouse, regardez le jahili, hein, c'était un honneur pour eux que leurs épouses, justement, accouchent l'enfant de quelqu'un qui était noble parmi les Arabes. La troisième catégorie, comme l'a dit Aïcha, radiallahu anha wa ardaha, c'est que des gens, moins de 10, se présentent tous chez une femme, ou chez certaines femmes. Et entretient tous des relations avec elle. Et le jour où elle est enceinte, et qu'elle accouche, elle les appelle tous. Ils ont dit, venez ici. Vous savez ce qu'il y avait entre moi et vous? Ben voilà mon enfant. Toi, un tel, cet enfant c'est le tien, prends-le. Et directement, elle l'attribue à quelqu'un, et lui il ne peut absolument rien faire. Et donc, cet enfant devient son fils. Ça c'est la troisième catégorie. La quatrième catégorie, toujours dans ce que nous explique notre mère Aïcha radiallahu anha, ça c'est ce qui concerne, a'azakumullah, les prostituées, qui justement mettaient des drapeaux sur leurs portes, afin qu'on sache qu'elles sont là. Et elles, c'est pareil, lorsqu'elles accouchent, qu'est-ce qu'elles font? Elles réunissent de nouveau ces mêmes personnes-là, ces mêmes hommes, et on fait appel à des gens, ce qu'on appelle al-qaf, hein. Ce sont des gens qui peuvent savoir l'enfant à qui il appartient. Donc, il regarde par exemple les doigts, les yeux, etc. Donc, il s'oriente par des signes qu'il rencontre sur l'enfant et il dit, voilà, cet enfant, c'est le tien. Donc, elle faisait recours à ces gens-là pour donc attribuer l'enfant à l'un de ces hommes et après cela, il n'a pas à discuter, il doit prendre et se taire. Je disais que le mariage s'inscrit dans les grandes règles juridiques et l'ahkam, c'est que les filles, hein. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le prophète, la sallam, a encouragé le mariage, mais souvent nous oublions cette phrase importante du début de ce hadith. Man istata'a minkum al-ba', celui d'entre vous qui peut assumer cela, qui peut assumer ce devoir. Fa yatazawwaj, qu'il se marie. Et c'est pour ça que les fuqaha, les juristes, ont classé justement, le mariage dans ces catégories-là. Ils ont dit que si la personne a peur de tomber dans l'adultère al-zina, et qu'elle a les moyens de se marier, eh bien, c'est une obligation pour elle, pour cette personne donc, de se marier. Et ils ont dit pour le cas de al-haram, c'est que la personne n'a pas les moyens. Et s'il se marie, eh bien, elle risque de s'enfoncer lui et son épouse dans le gouffre. Car il n'est pas capable d'assurer cette vie de couple et ce ménage. Alors ici, les fouqahs ont dit, celui-là, il va faire victoire à lui-même, il va faire victoire à son épouse, eh bien, dans ce sens-là, jusqu'à ce qu'il assure sa capacité à se marier à ce moment-là, il n'y a pas de problème. D'autres l'inscrivent également dans le macro, le déconseiller. Pourquoi? Ils disent c'est la personne qui peut faire du tort, ou plutôt qui peut gérer sa situation familiale, mais avec beaucoup de difficultés, mais sans pour autant noyer son couple, et bien celui-là, il est déconseillé le concernant de se marier. Et donc la dernière catégorie, c'est le moubah, donc le permis, c'est celui qui a les moyens, mais qui n'a pas vraiment, qui n'a pas une envie de se marier, qui n'a pas peur de tomber dans le zina, celui-là, il est libre, il se marie quand il le désire, et comme il le veut. Le point suivant, le troisième point, bien choisir son épouse, le conjoint, ou la conjointe, chose très importante, ce n'est pas sur un coup de flash, parce qu'elle a des beaux yeux, ou qu'il a de beaux yeux, et c'est bon, bismillah, on s'embarque, hein, et on va à l'aventure. Et combien de jeunes on les a vus qui se sont mariés au bout de quelques mois, qui divorcent et lâchent tout. Hein, pourquoi? Parce que depuis le début, il n'a pas pris la chose au sérieux. Donc le choix est très important, et avant tout, ad-din, la religion qui prime sur toute chose. Et le prophète, justement, dans un hadith, nous dit justement, il a atteint le mandat de dire au khulqu. Si quelqu'un se présente à vous et vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, faites un wujou. Mariez-le. Il l'a tafa'alou. Ça compte fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Si vous ne le faites pas, vous êtes responsable si elle fitna après. Si cette personne tombe dans la débauche, si elle fasade, vous êtes responsable de cela. Dans un autre cas également, le prof rapporté par Mousse ibn Masa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » الدنيا متاع, cette vie est un plaisir, n'est qu'un plaisir. « وخير متاعها » le meilleur de son plaisir de cette vie, « المرأة الصالحة » la femme pieuse, car elle t'assure un équilibre pour toi-même et pour ta famille et pour ton couple ou l'avenir de ta famille de façon générale. Alors les jeunes en général, quand ils viennent se marier, ou les hommes de façon générale, qu'est-ce qui les pousse? Sur quels critères se base-t-il pour justement demander une fille en mariage? Alors je préfère, comme on dit, Khaled al-Mustoura, on a découvert, c'est mieux. Mais je me réfère au prophète Mahsallam, qui justement nous dit, Tunkah al-Mar'atu li-arba. Donc les femmes en général sont demandées en mariage pour l'une des quatre choses. لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين كربت يداك. Donc il dit les femmes en général sont choisies pour l'une des quatre choses. لمالها, pour le bien qu'elle a. C'est une femme peut-être riche. Hein, vous pouvez gratter de l'argent, la boucle. Hein, l'héritage. لجمالها, elle est belle. ولحسبها, l'honneur qu'elle occupe. Elle est issue d'une famille noble. Alors il faut bien que, hein, ils disent, moi j'ai épousé une telle, c'est la fille de Sizlan, très connue. Hein? Ou les dînera pour sa religion, et c'est là que le prophète sallam nous donne justement le choix pour pas qu'on soit perdu et qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on va choisir? Fazbar bidat din, salibat yadak. Donc prends celle, justement, qui est sa religion, et tu seras certainement satisfait. Bien sûr, rien n'empêche qu'elle réunit ces autres points, qu'elle soit également charmante, et qu'il est de bien, rien n'empêche, mais avant tout, il faut la religion ad-din avant toute chose. Alors maintenant que on a parlé de comment choisir son épouse, ou sur quoi se baser, c'est vrai que certains, et même certaines de nos sœurs risquent de dire, oui mais, est-ce que la femme elle-même peut-elle se proposer en mariage? Parce qu'en général, c'est tous les garçons qui vont voir justement la famille, et qui va voir la fille. Mais est-ce que la fille elle-même peut-elle se proposer en mariage? Bien sûr, avec les critères. Parce que ça désordre. Eh bien, la réponse est oui. Nous avons déjà un hadith rapporté par le compagnon Sahl ibn Sa'd. Qui dit qu'il y a une femme qui est venue alors que le prophète s'est assis avec ses compagnons. Il y a une femme qui est venue et qui lui a dit, je m'offre à toi. Donc elle voulait que le prophète sallam épouse cette femme. Et c'est alors que le prophète sallam l'a regardée, du haut en bas, et puis il a baissé sa tête. Donc il ne la voulait pas. Alors lorsqu'elle a vu que le prophète n'a pas réagi sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est assise. Et c'est là qu'un compagnon a dit, ya Rasulallah, si toi tu ne la veux pas, eh bien laisse-la moi. Donc il la récupère. Et c'est là que le prophète lui a dit, est-ce que tu as quelque chose comme dot pour elle? Elle a dit, non, moi j'ai rien ici. Moi j'ai absolument rien. Ça y est, je dis, va voir ta famille, et si même s'il y a une bague en fer, eh bien ça peut servir comme dot. Il est parti, il est revenu, il a dit, il n'y a absolument rien. Alors le prophète lui a dit, réfléchis bien. Il a dit à Rasulallah, je suis prêt à donner ma tunique. Donc il a dit qu'il avait survécu, il a dit, je suis prêt à diviser en deux. Je lui garde une partie, il faut bien que je reste couvert, et je lui donne l'autre. Et le prophète Hassan Bedouin, et si toi tu prends la moitié, tu seras d'un côté, tu ne seras pas complètement habillé, et si elle prend la moitié, c'est pareil. Et c'est là qu'on expliquait à nos compagnons, on ne sait plus quoi faire. Il s'est assis, et alors à un moment donné, il s'est levé pour partir, parce qu'il voyait qu'il n'y avait absolument rien, déçu, mais le prophète Hassan, qui a été envoyé Rahmatan lil Alamin, il attendait comme miséricorde à cette tombe-là. Il ne l'a pas laissé partir comme ça, le fait derrière. Il a rappelé, il lui a dit, écoute, combien tu connais de sourates? Il a dit, je connais tel nombre. Il a commencé à les citer les unes après les autres. Il dit, est-ce que tu les connais par cœur? Il a dit, ben voilà, sache que je te marie parce que tu as les sourates connues. Allez, prends cette femme. Bismillah. Donc, on voit ici que et ici, bien sûr, la règle juridique est très importante. Vous savez que la sunna est la deuxième source législative après le Coran. Et la sunna, justement, qui nous sert de base dans la loi, dans nos règles juridiques, il y a donc les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses gestes, mais également ses approbations, al-iqrar. Et ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme source législative, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a approuvé, justement, il n'a pas critiqué cette femme parce qu'il s'est proposé elle-même, il n'a rien dit, et en plus de cela, en présence des compagnons qui étaient à ses côtés. Donc, si ce n'était pas permis pour une femme de demander de se proposer elle-même en mariage, eh bien, le prophète Hassan même, dans ce cas-là, lui aurait dit, écoute, ma sœur, c'est pas comme ça qu'il faut faire, retourne chez toi et attends qu'un homme vienne frapper à ta porte pour se demander en mariage. Mais ce n'a pas été le cas. Le prophète Hassan même, au contraire, il n'a rien dit, et la mère a approuvé l'autre qui voulait l'épouser. Et en plus de ça, on dit que c'est le maqam ou bayan, ou là, il y a juste akhir al-bayan, al-waqt al-haja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se taire sur une erreur. S'il y a une erreur, il doit rectifier la chose. L'autre point important, c'est ce qu'on appelle al-khitba, et non pas al-khutba. Il ne faut pas confondre entre les deux. Al-khutba, c'est le serment à point du vendredi. Par contre, al-khitba, c'est justement cette demande de mariage. C'est quand le jeune vient voir justement le père, le tuteur de façon générale, et donc demande donc la main de la fille donc en mariage. Et ici, il y a quelques points importants concernant le khitba, c'est que justement le prophète sallam nous apprend, il dit لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الذي قبله أو يأذن له. Donc le prophète sallam rappelle, c'est un point important, et ça malheureusement des gens jouent un peu avec ça, dans certaines familles du moins. Donc si quelqu'un vient se présenter, il arrive que deux personnes se présentent en même temps. Bon, pas le même jour, bien sûr. Oui. Ils viennent en même temps, ils ne savent pas. L'un ne sait pas que l'autre est venu demander. Donc, cette sœur, si tu es en mariage, eh bien, il faut mettre dans ce niveau. Il y a deux situations possibles. Soit, les deux ne savaient pas. Donc, l'un ne connaît pas l'autre. Et donc, il ne savait pas que la fille, donc, l'un d'entre eux ne savait pas que la fille a été demandée. Ou alors, l'autre chose. L'autre explication possible, c'est qu'il n'y a pas encore de réponse explicite. C'est pour cela que les parents n'ont rien dit. Et bien entendu, la réponse revient donc à la fille. Donc ici, le nahy ici, le tahrim, comme l'a indiqué certains fuqaha, donc l'interdiction ici, est une interdiction formelle, parce que du moment où tu sais qu'un tel est parti demander une sœur en mariage, ben il ne fait pas un sale coup en alentour aussi de faire pareil chez la même personne. Par moi, qu'ils ont d'autres, le père a plusieurs fils, c'est autre chose. Moi, je parle de la même personne. Donc, tu attends que, soit, qu'il laisse tomber, ou alors, qu'il te dise, ça va, tu peux y aller, moi, de toute façon, je n'ai rien obtenu. Concernant le khitba, ce qui est important aussi, c'est regarder la personne même, cette femme, ou cette sœur, ou cette fille que tu vas épouser, inshallah, et elle, c'est pareil. Parce qu'un compagnon, justement, est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui a dit, plutôt ce compagnon a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je me suis marié. Et c'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, est-ce que tu l'as vu? Il lui a dit non. Il a dit, idhhab, fanzur ilayha. Retourne et regarde-la. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit justement, c'est lui parmi vous qui demande justement, donc une jeune fille en mariage, va-t-il la regarde? Car il se peut que de ce regard, il y aura quelque part une union. Et Jabir, le compagnon Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radiallahu anhu arda, qui lui justement rapporte ce hadith, eh bien, quand il a entendu ça, il a profité, bismillah. Justement, il voulait demander une sœur en mariage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, wa kuntu atakhabba'u laha. Il dit, je me cachais pour l'avoir parfait, voir comment elle est. Donc, avant qu'il ait demandé, d'entrer directement dans cette famille pour la demander au cas où, elle lui plaît pas, par exemple, ou l'inverse, et qu'il est donc, qu'il soit mal à l'aise, ou que les parents soient mal à l'aise. Aussi important concernant le khitba, les demandes de mariage, c'est l'approbation de la fille même. Bon, cette fille, soit elle ne s'est jamais mariée, donc elle est comme on dit en arabe dit, ou alors elle s'est déjà mariée auparavant, mais soit elle est divorcée, ou alors son époux est décédé, c'est pas pareil. C'est pour ça que le prophète fait bien la distinction en disant, effayez-vous, ahaqu bi nafsiha min waliha. Donc effayez-vous donc, la femme qui a déjà été mariée avant, elle dispose plus d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà goûté au mariage. Elle sait ce que c'est, le mariage et la vie de couple. Il dit, par contre, celle qui ne s'est jamais mariée, il faut lui demander son autorisation. Et, son autre raison, c'est son silence. Pourquoi? Parce que Aïcha, radiallahu anha, justement, dans une autre narration précise, dit à Rasulullah, innaha tastahi, inna al-dikra tastahi. Donc, la fille qui s'est jamais mariée, elle est gênée devant ses parents de dire oui. Alors, le prophète a dit, il dit, bah, ibnuha samatuha. Donc, son approbation, c'est son silence. Et bien, après, dans les deux cas, concernant, celle qui s'est déjà mariée auparavant et celle qui n'a pas été, dans les deux cas, bien sûr, ça passe par un seul conduit qui est le tuteur al-wali. Donc, ça concerne donc l'approbation de la jeune fille. Si maintenant tout marche, comme sur des roulettes, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On passe à la chose suivante. On va maintenant mettre ça sur papier. On va maintenant contracter l'acte de mariage, donc islamique, l'acte de shari'i. Et bien sûr, cet acte de mariage islamique a des conditions, il a des piliers. D'abord, il a deux grands piliers, qui sont l'ijab, donc l'affirmation que le jeune homme dit, voilà, je désire épouser une telle et j'accepte. Et al-qaboul, l'admission, c'est-à-dire que le père, le tuteur, accepte et dit, voilà, j'accepte de donner ma fille à un tel. Donc, ça fait les deux piliers. Les conditions, nous avons avant tout le tuteur, al-wali. Et le tuteur, ça peut être qui? Ça peut être le père. S'il n'y a pas le père, par décès ou par absence, ça peut être le grand-père. Si ce n'est pas le cas, ça peut être le frère, et si ce n'est pas le cas, ça peut être l'autre. Et on regarde toujours les plus proches, bien sûr, les personnes masculines. Et justement, le prophète, c'est dans ce sujet, parlant de ces conditions, il nous dit justement, la nikah illa bi wali wa shahidai adi. Il n'y a pas de mariage admis s'il n'y a pas de tuteur et deux témoins propres, deux témoins honnêtes, en qui on a confiance dans leur religion, dans leur intégrité. S'il n'y a pas ces deux témoins-là, bien, ça va pas. Et combien nous entendons dans les temps, comme quoi il y a des gens qui vivent depuis des années ensemble, qui vivent, ils sont juste mariés à la commune, et qui n'ont jamais fait ce harcharé. Et ils ne savent pas qu'ils vivent dans le haram, qu'ils sont en train de vivre dans le haram. Pour eux, l'acte de mariage, c'est le papier qu'il a fait à la commune. Non, loin de là. Et ici, un point important qui me pousse justement à parler de cela, c'est que justement, l'acte shar'i, l'acte de mariage islamique, sa validité est face à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu. Mais bien entendu, vu qu'il y a beaucoup d'abus ces derniers temps, et en toute époque, par précaution, et c'est naturel, il faut protéger justement cet acte de mariage islamique par justement le but officiel, et il y a plusieurs fatwas à ce sujet, fait par certains machers à ce niveau, comme quoi ils disent qu'il est important et impératif qu'il y ait un papier officiel pour protéger les deux conjoints ou l'un des deux. Parmi les conditions également, la dot. Et ici, la dot, il y a deux critères importants à retenir. D'abord, nous avons le verset dans lequel la source a dit « فَنْكِحُهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » Donc, « فَنْكِحُهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » Épousez-les avec l'autorisation de leur famille, donc de leur tuteur, « وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » et donnez-leur, donc leur part, leur dû, et qui est très important. Concernant la dot même, il y a deux choses importantes, deux critères importants à retenir. Premièrement, la dot, c'est pas le padre qui décide tout seul. Hein? C'est pas le padre qui dit, c'est bon, moi je veux plus de 900 000, apporte ici, et il n'en parle jamais à sa fille. C'est une discussion réciproque, c'est le père qui propose, excusez-moi l'expression, et c'est la fille qui dispose. Donc, le père, le tuteur en général, en parle avec sa fille, ou avec la fille, et c'est en sorte qu'il décide, donc la meilleure façon, quelconque. Et l'autre critère important, pas d'exagération dans la dot, il ne faut pas des sommes fabuleuses, mais il faut quelque chose de normal, et de modéré, et de raisonnable. C'est justement dans un hadith rapporté par Uqba ibn Amr, radiallahu anhu, le prophète sallam dit justement, Khayr al-Sadaq aysarah. Le meilleur des dots, c'est la dot la plus légère, et la plus simple, et la plus souple. Et subhanallah, sadaqa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, combien avons-nous vu des gens qui se sont mariés avec des sommes colossales et ils n'ont pas fini le coup. Ils n'ont même pas terminé une année ensemble. Donc, si on veut justement cette baraka, cette bénédiction dans nos biens, eh bien, il faut que justement cette dot soit raisonnable, comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant l'acte de mariage même, un point important, il y a une habitude qui malheureusement n'appartient pas aux musulmans, mais plutôt appartient aux Ahlul Kitab et aux chrétiens en particulier, al-Nasara, c'est cette fameuse bague d'alliance. Il n'y a pas de bague d'alliance chez nous en tant que musulmans, et justement le prophète nous a bien ordonné de nous démarquer des gens du livre, de nous démarquer des coupables en général, afin qu'on ait notre personnalité bien distincte, et justement, si lui, le garçon, le jeune homme, veut faire un cadeau de lui-même, une bague, ben, il a qu'à attendre à un autre moment, et qu'il lui achète tout ce qu'il veut comme bijou, il n'y a pas de problème. Mais cette bague d'alliance qui est liée au contrat de mariage que malheureusement beaucoup de nos familles font, ça n'a absolument rien à voir, c'est une pratique chrétienne pure, et nous devons donc nous en éloigner. Le sixième point, et on en dira à la fin, inshallah, c'est ce qui a trait à ce qu'on appelle le walim, hein. Donc, el-walim, hein, c'est le repas ou bien la fête qu'on organise pour justement donc annoncer cet heureux événement qui est donc le mariage. Et ici, il y a bien sûr plusieurs points qu'il faut retenir. D'abord, il y a un compagnon, Abdurrahman ibn Aouf, radiallahu anhu arda, qui était passé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète a vu sur lui des traces de safran, sofra. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Et c'est là que le compagnon a dit, alors cela, je me suis marié. Il lui a fait, est-ce que tu as fait le walima? Il lui a dit non. Il lui a dit, aoulim ou l'obishat. Il dit, fais justement cette walima. Et si on comprend par là que c'est, pour certains du moins, fouqaha, qui est un wujud, une obligation, aoulim ou l'obishat, fais cette fête et ce repas ne fût qu'avec donc une tasse de chèvre, afin que tu puisses faire partager cet événement avec d'autres. Et dans un autre hadith également, le prophète s'il me dit, a'limu bin nikah, annoncez justement ce mariage aux autres en invitant justement les gens pour cet heureux événement. Quant à celui qui reçoit l'invitation, eh bien, le principe de base, c'est qu'il doit, donc répondre à l'invitation, il doit dire, a'adukum ila al-walima, falyatiha. Si l'un d'entre vous est invité donc à une walima, bon, hein, vous êtes d'accord pour certains, eh bien, qu'il y vienne. Donc, il vient justement à cela. Mais certains fouqaha justement précisent qu'il peut s'abstenir s'il a des raisons valables. Comme quoi, par exemple, il sait que cet endroit, il y a du fasad. Il verse, par exemple, du vin, de l'alcool, le khamr. Il y a la mixité, par exemple. Il met de la musique, etc. Eh bien, s'il se sent incapable de les exercer, de les orienter en sa présence parmi eux afin qu'il cesse de faire la chose, eh bien, mieux vaut pour lui-même et pour sa foi de s'excuser gentiment et dire moi je ne viens pas. Donc ça, ça concerne l'imam. Alors, le dernier point que je voudrais traiter maintenant, c'est ce qu'on appelle en arabe « munkarat al-afrah ». Donc les choses répréhensibles qui se passent pendant les fêtes. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans nos fêtes à nous. Et qu'on vient de mettre un peu de l'ordre. Et malheureusement, ce qui dit à certaines personnes, nous allons apporter quelqu'un qui va faire un dars, dites qu'elle meurt, et qui va lire le Coran, il te regarde bizarrement avec de grands yeux en te disant, c'est tout ce qu'il y a? Quoi, c'est quoi, c'est une janaza, quoi, c'est un truc mortuaire ou quoi? Alors que, subhanallah, le prophète, en s'il est a permis aux femmes, je dis bien aux femmes uniquement, de s'amuser un peu, comme on dit, dans les règles, bien sûr, d'utiliser le douche, donc, sans tambourin, hein, sans fil bien sûr, et que les femmes vont puissent faire des chants entre elles, tant que ces chants-là ne contiennent pas bien sûr des choses répréhensibles par la loi de l'islam. Et justement, Aïcha radiallahu anha qui avait assisté à un mariage d'une femme qui s'est mariée avec un compagnon ansari, le prophète s'est lui a demandé « Hal kana ma'akum min lahum ?» Fa inna al-ansar yuhibbuna lahum. Il dit, est-ce qu'il y avait avec vous de la distraction? Car justement, les ansar aiment bien ça. Et ça, c'est parmi les rares cas où il est permis justement de faire ça. Mais en dehors de ça, donc en dehors du mariage, et dans certaines riwayat qui aussi concernent l'Eid, en dehors de cette situation-là, il faut si on veut la baraka, eh bien, il faut se conformer au texte, il faut se conformer au hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Est-ce que nous connaissons mieux la bénédiction de notre mariage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui, justement, il nous a tout appris? Et qui n'a rien laissé donc en suspens, donc, wa khairul huda, huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses justement répréhensibles que l'on retrouve dans le mariage malheureusement, la mixité, bien sûr, al-arani, les musiques. Alors, il y a des photos bizarres qui circulent, surtout parmi les femmes, en disant, non, on n'emmène pas de groupe, mais on met le cassette. Mais c'est la même chose, c'est pareil, mais non, c'est pas pareil. On n'a pas porté de gens, on avait juste une cassette de Oum Kulthoum, de Nella, je sais pas qui. Non. L'interdiction est générale, cassette ou pas cassette. C'est l'interdiction. Non. Parmi les choses aussi répréhensibles, Munkarat al-Afrah, l'époux, Al-Aouz, qui rentre parmi les femmes, hein, pour les quelques clichés de photos, et tout fier, il fait ça. Une personne parmi eux ne pense qu'il dit, subhanallah, nous sommes dans une masse, dans un péché. Il se retrouve au milieu de plein de femmes, toutes maquillées, etc., et sans voile. Et lui, il n'y a aucun problème, pour lui, c'est naturel. C'est une fois dans sa vie, subhanallah. Bon. On ne peut pas exagérer, mais c'est une fois dans sa vie. Comment vous êtes sévère? Très sévère. C'est quoi cette religion, subhanallah? Donc, autre chose aussi répréhensible, c'est cortège de voitures pour les rues. L'action, caméra, etc. Catastrophe, vraiment catastrophe. Subhanallah, nous sommes allés plus loin que les gens du livre, en Nassara ou Yahoud. Alors que eux maintenant, c'est quelque chose de démodé chez eux, ils ne le font plus. Mais nous, tellement que nous sommes bêtes, nous le faisons encore. Et je ne te dis pas après ce qui se passe, tous les problèmes et les disputes. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est concernant donc la fête. Il ne faut pas qu'il y ait des gaspillages non plus au niveau de tout ce qui est nourriture, etc. Il ne faut pas être avare non plus, mais il ne faut pas faire de gaspillage. Car justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, inna al-mubadhirin kanu ikhwan al-shayatin. Inna al-mubadhirin kanu ikhwan al-shayatin. Les gaspilleurs sont certes les frères de Satan, des shayatin. Parce que Satan justement aime bien cela. Aime le gaspillage, parce que le gaspillage est une façon, comme on dit, kufr al-ni'ma, c'est une façon de mépriser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de s'en moquer. Et voilà, nous arriverons à la fin, inshallah. Lorsque le jeune homme, le jeune mari, le jeune prince, le jeune cavalier, prend son épouse et qu'ils donc partent avec elle dans sa demeure, il est conseillé bien sûr de boire du lait ou du lait battu. Le terme est dit, c'est le laban, bien que le mot laban s'applique sur les deux, le lait et le lait battu, car justement nous avons un hadith à ce niveau dans lequel Asma bint Yazid ibn Sakan radiallahu anha disait justement que lorsque le prophète sallam avait épousé Aïcha radiallahu anha, on avait apporté donc une cruche, je n'ai pas souvenir de l'être, et que le prophète m'a vu, et qu'elle également elle a vu. Et donc, c'est bien de prendre l'exemple sur le prophète, mais je rappelle toujours, Khair al-Huda, Huda Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, ainsi, autre chose également, faire des invocations pour elle, et pour lui-même, bien sûr. Et également, ici, le prophète nous apprend qu'il mette sa main sur son front à elle, et donc, il fasse donc le dua, Allahumma inni as'aluka min khayriha, ou min khayri ma jabalta alayh, wa a'udhu bika min sharriha, ou min sharri ma jabalta alayh. Donc, il demande le bien concernant cette personne, et il demande qu'il le préserve du mal, si au cas il y a un mal en elle quelconque. Et autre chose également, prier ensemble, car nous avons justement un hadith à ce niveau, qu'un compagnon Abu Sa'id, Mawla Abi Usaid, qui justement s'était marié, et il y avait plusieurs compagnons qui étaient avec lui, et qui lui ont dit, voilà, ce que nous avons appris du prophète, ses compagnons c'était Ibn Mas'ud, Hudayfa, ainsi qu'Abu Dhar et d'autres, ils lui ont dit, si tu rentres avec ton épouse, eh bien, faites donc prier ensemble, donc une nafila, et après ça, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Voilà donc, c'est ici que s'arrêtent ces fameux préliminaires du mariage, Inch'Allah, et nous devons apprendre, Inch'Allah, à se mettre en conformité avec ce que le prophète nous a appris. C'est là que va la baraka, la bénédiction. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Et je laisse donc la parole aux questions.
Barakallahu fiik, akhouna Mustafa, pour ces précisions qui sont nécessaires, malheureusement insuffisantes. Mais si on laisse parler longtemps comme ça, il faudrait une conférence à lui tout seul. En toute logique, Akhouna Fillah Bayout nous introduit donc dans la vie conjugale.